coup, cela nous offre une bonne transition, je pense, pour donner la parole à Aline Hubert, référente environnement au groupe URD, qui travaille depuis de nombreuses années sur les moyens de diminuer l'empreinte environnementale des ONG. Alors, Aline, dans ton article paru dans la revue Alternative Humanitaire, tu pointes du doigt ce que tu appelles l'inflation comptable et normative dans l'approche environnementale actuelle, plus précisément ce que tu identifies comme des obstacles ou des difficultés techniques et économiques rencontrées par les ONG. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail à quoi tu fais référence ?
Oui, merci pour l'invitation. Du coup, le secteur humanitaire, c'est un secteur qui est assez bureaucratique, qui a tendance à verser assez facilement dans la mesure et les outils dès qu'il s'agit de régler un certain nombre de difficultés. Donc j'entends par inflation comptable et normative l'augmentation générale du nombre d'outils qu'on a pour mesurer les impacts environnementaux, pour mesurer les empreintes carbone et puis tous les textes croissants qui visent justement à l'atténuation. Donc, si je prends quelques exemples concernant les outils de mesure d'impact environnementaux au niveau des projets, on a toute une myriade d'outils qui ont été développés, y compris par le réseau environnement humanitaire que mentionnait Chloé. Alors, le plus connu, ce n'est pas celui du REH, mais c'est celui qui a été développé par les Nations Unies, le NEED+, pour Nexus Environmental Assessment Tool, qui est assez utilisé. Mais il y en a plein d'autres hein, qui ont été développés par des bailleurs ou par des ONG. Donc, ça, c'est au niveau des projets. On a aussi tout un travail de mesure d'empreinte carbone au niveau des organisations elles-mêmes. Donc, il s'agit de mesurer les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par ces organisations, par les activités qu'elles mènent. En effet, de plus en plus d'organisations ont pris des engagements de décarbonation, des engagements chiffrés. Et donc, aujourd'hui, il faut pouvoir les suivre. Et enfin, côté normatif, on a de plus en plus de textes, donc ça va être des stratégies, des politiques internes, mais aussi des exigences environnementales qui sont mises à la fois à l'échelle des organisations et parfois imposées par les bailleurs. Je pense en particulier au Minimum Environmental Requirements de la DG Eco, donc un bailleur humanitaire important, hein, qui finance de nombreuses organisations et qui du coup va imposer à ses partenaires opérationnels un certain nombre de mesures environnementales. Alors c'est accompagné d'une batterie d'indicateurs et de chiffres et qui contraignent un peu plus ou qui rendent de plus difficile le travail des organisations sur le terrain. Alors vous allez me dire, quel problème ? Bah, tout ça, d'abord, ça prend du temps. C'est très consommateur de ressources, alors qu'on sait que le secteur humanitaire est de plus en plus, ces derniers temps, contraint hein, par les ressources. Et puis, c'est quelque chose qui devient très complexe, qu'on rend très technique. Et ça, ça a un deuxième effet, c'est que ça exacerbe les rapports de domination qu'on constate déjà dans notre secteur, en particulier entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire qu'on est en train de favoriser ceux qui connaissent ces outils, qui les maîtrisent, qui ont les codes, qui ont le langage et qui ont reçu la bonne formation. Donc ça rejoint un peu des enjeux de décolonisation qu'on connaît dans notre secteur. Il y a un autre élément, c'est que ça donne l'impression, ce travail normatif donne l'impression qu'il n'y aurait qu'un chemin, un modèle unique vers la transition écologique. Or, au contraire, aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire la transition écologique, ni des ONG, ni même de notre société. Et donc, on a besoin d'être innovant. On a besoin d'explorer plusieurs chemins, plusieurs façons de faire. On a besoin de tester, d'expérimenter. Enfin, évidemment, on est en train de mettre beaucoup d'énergie à mesurer, à documenter, à guider. Alors, c'est bien, c'est nécessaire. Mais en fait, on a aussi besoin d'action. Et quand on voit la proportion d'énergie et de ressources allouées à tout ce qui est comptabilité et développement de normes versus l'énergie mise dans les actions, on peut se poser quelques questions. Et peut-être je terminerai sur ce point. Quand on prend un peu de recul, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de mesures, de bilan carbone, de développer des NEED plus sur des projets, pour savoir vraiment quoi faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je veux dire, on est tous des citoyens, on lit les médias, on sait qu'il faut qu'on réduise notre dépendance aux énergies fossiles, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se déplace moins, on va peut-être se déplacer avec des véhicules électriques, enfin en tout cas qu'on va développer d'autres formes de mobilité, qu'on va peut-être également acheter mieux. Donc voilà, donc on a quand même un certain nombre de solutions qui sont, je dirais, presque du bon sens.
D'accord. Donc si je comprends bien, il y a l'idée de limiter un petit peu ce fardeau normatif et en même temps de compter sur les attitudes responsables des individus aussi. Mais il y a aussi une question que tu abordes dans ton article qui est la question épineuse, évidemment, de l'équité. Est-ce que, et on peut se poser cette question, est-ce qu'il est juste avec justement ces normes pour tout le monde, est-ce qu'il est juste d'imposer des réductions d'empreintes carbone aux actions destinées aux populations les plus vulnérables?
Alors, merci pour la question. Je dirais que la réponse est dans la question, donc évidemment non. Ça n'est pas juste d'imposer ces réductions d'empreintes carbone aux populations les plus vulnérables, qui, je le rappelle également, sont les moins responsables des changements climatiques actuels et qui sont celles qui ont le moins de capacité de réellement réduire leur empreinte carbone. Alors, je pense qu'il faut qu'on revienne, pour bien comprendre ce sujet, à un concept clé dans les négociations internationales climatiques, donc dans les COP. C'est un principe qui est évoqué dans l'article 3 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, celui de responsabilité commune mais différenciée et de capacité respective. Donc, ça veut dire quoi ? Pour l'atténuation, ça veut dire qu'on reconnaît toutes et tous qu'on a un devoir de lutter contre les changements climatiques. Mais que le niveau de responsabilité et les efforts à fournir varient en fonction des contributions historiques et des capacités de chacun. Et le problème, c'est que dans le secteur humanitaire, on ne s'est pas posé cette question au démarrage. Et donc, on a calqué les recommandations du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sur le secteur de l'aide et sur les organisations internationales, les ONG. Donc concrètement, on a repris cet objectif de moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, au passage par rapport à une date de référence qui varie par rapport au GIEC, mais passons. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a négligé le mandat social des ONG. Les ONG, elles sont là pour répondre à des enjeux liés aux droits humains. Quand on prend le secteur de l'aide internationale un peu plus globalement, on a aussi des ONG de développement qui travaillent donc à la mise en œuvre du droit au développement au niveau international. Et il serait illusoire de penser que ces objectifs-là, ces enjeux-là, ne rentrent pas en tension avec l'enjeu, l'ambition de décarbonation des ONG. Du reste, pour l'instant, j'étais moi-même assez étonnée de ça, mais il semblerait que l'équité, le principe même d'équité, ne fasse pas partie de l'ADN des ONG humanitaires, ou du moins c'est ce que certaines répondent à ça, parce que l'équité, ce serait une question finalement qui devrait être traitée par les ONG de développement, parce qu'elles s'intéresseraient aux causes, alors que les ONG humanitaires ne seraient là que pour traiter les symptômes des changements climatiques. Et je pense que ça mérite un petit peu réflexion.
Eh ben, continuons la réflexion. De l'équité, on peut passer à la justice environnementale. C'est un thème que tu abordes fortement dans ton article. Est-ce que tu pourrais développer ce que serait, selon toi, une véritable justice environnementale appliquée au secteur humanitaire ? Quels en seraient les principes directeurs ?
Alors, si tu le permets, Boris, avant de voir comment ça s'applique au secteur humanitaire, peut-être que il y a d'abord un enjeu de pédagogie sur le concept lui-même, qui n'est certes pas nouveau, mais manifestement que les organisations ne maîtrisent pas bien. Donc la justice environnementale, elle revendique la réduction des inégalités environnementales et le droit pour chacun de vivre dans un environnement sain. Donc sur le climat, la question qui se pose, c'est « Ok, on doit tous réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais finalement, comment on répartit les efforts, les coûts et les risques de manière juste ?» Ce sont exactement les questions qui sont posées au niveau des COP. Hein. Donc d'abord, la première chose, c'est de pouvoir réexpliquer ce concept. Ensuite, appliquer au secteur humanitaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a d'abord besoin d'une lecture politique. Sans cette clé de compréhension, on passe à côté de la justice environnementale. Si vous prenez, par exemple, un enjeu qui peut apparaître au premier regard assez technique, la question de la comptabilité carbone, en fait, c'est politique. On choisit de compter certaines choses ou pas. Donc, on choisit ce qu'on compte, mais donc ce qui compte. Et comptabilité carbone, elle repose sur un certain nombre de conventions qui nous disent comment on doit compter. Ça aussi, ce sont des normes qui sont tout à fait politiques. Et puis Chloé mentionnait l'approche holistique. Et en effet, il faut comprendre ce besoin d'approche holistique qui intègre également les dimensions sociales, économiques, culturelles, historiques et politiques. Alors, ça, c'est pour le démarrage. Ensuite, sur le fond, appliquer une justice environnementale sur notre sujet d'atténuation, c'est finalement se poser la question de qui risque d'être affecté par notre transition écologique. Aussi bien au niveau interne, c'est-à-dire quels sont les salariés qui vont devoir faire le plus d'efforts ou non, qu'au niveau externe, les partenaires avec qui on travaille, les populations qu'on accompagne, etc. Et donc, une fois qu'on s'est posé la question, normalement, on identifie des personnes et on voit bien que les efforts ne sont pas équitablement répartis. Et donc, il s'agit de demander à ceux qui en ont le plus les moyens la plus grosse partie des efforts. Alors, si on prend, par exemple, à l'échelle d'une organisation en interne, on peut supposer qu'on va demander plus d'efforts aux personnes qui sont situées au niveau des sièges qu'au bureau terrain du Sud-Soudan, par exemple. Et puis, de manière générale, on peut supposer qu'on va demander un peu plus d'efforts aux personnes de la direction. Ça, c'est au niveau d'une organisation. Maintenant, entre organisations, ça veut dire quoi ? A priori, on est en droit d'attendre un peu plus d'efforts d'agences des Nations Unies que d'une petite ONG locale en Afghanistan. Bon, voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Sur la forme, ça veut dire que il s'agit de penser au processus de cette transition écologique en interne. Vous savez que la justice environnementale, c'est d'abord une question de justice participative, donc des personnes qui sont impliquées dans les prises de décision qui vont les concerner. Donc ça va demander évidemment du temps pour faire des débats et puis de commencer par les mesures les plus justes. Et ensuite, seulement ensuite, petit à petit, d'élargir à des mesures environnementales éventuellement plus contraignantes qui toucheraient pas uniquement les sièges et la direction, mais tout un chacun. Je pense qu'il y a un autre enjeu, et là, il faut élargir un peu la focale, c'est si on prend à l'échelle internationale et qu'on regarde ce que pèse le secteur humanitaire en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans le périmètre international. Alors là, on décale complètement le sujet parce que le secteur de l'aide internationale, c'est 0,09% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc ça veut dire qu'il va quand même falloir se préoccuper d'où proviennent les 99,91% restants. Et est-ce que nous, secteur humanitaire, on a quelque chose à dire à ce sujet ? Est-ce que nous, qui sommes aux premières loges, malheureusement, aux premières loges des désastres écologiques et humanitaires, est-ce qu'on n'a pas une voix à porter ? Et il me semble qu'il serait intéressant que les ONG humanitaires fassent ou contribuent à des plaidoyers existants, éventuellement ceux portés par des organisations environnementales, par exemple, que mentionnait Chloé, et d'utiliser son capital ou leur capital politique pour dénoncer les inégalités environnementales parce qu'elles affectent en premier lieu les personnes les plus vulnérables que les ONG entendent assister.
Merci. Tu mentionnes aussi dans ton article le fait que et ça, c'est presque étonnant que la question de la faisabilité des objectifs environnementaux est rarement débattue. Quels objectifs te semblent, toi, réalistes pour le secteur humanitaire d'ici 2030, donc dans 5 ans ?
Alors, c'est une grosse question. Si tu permets, je n'ai pas très envie de distinguer la faisabilité et l'équité, parce que, en fait, les deux sont liés. C'est ce que nous dit le principe de responsabilité commune mais différenciée et de capacité respective, c'est qu'on ne peut pas décorréler la capacité de l'équité. Alors évidemment, la faisabilité de nos objectifs, ça va dépendre des moyens qu'on y met. Et vu la gravité de la situation, il va sans dire qu'il va falloir faire tout notre possible en tout cas, il va falloir se donner les moyens d'avoir des objectifs ambitieux. Mais la question qui se pose, en fait, c'est jusqu'où on peut aller sans porter atteinte, compromettre notre mandat social. Alors la question, elle n'est évidemment pas évidente. Peut-être on peut faire aussi un détour sur pourquoi on veut des objectifs réalistes. D'abord, en fait, on a besoin d'objectifs réalistes parce qu'on doit entraîner tout le monde dans cette bataille, dans ce chantier interne. Et du coup, il ne faut pas saper le moral des gens qui doivent contribuer. Il ne faut pas non plus mettre ces personnes dans des situations de, de devoir arbitrer ou de devoir agir face à des injonctions contradictoires. Donc il faut essayer finalement de viser juste et pour garder une certaine motivation. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir des objectifs réalistes, et je voudrais insister là-dessus, c'est pour des enjeux de redevabilité qu'on connaît quand même dans notre secteur. Parce que s'engager sur des objectifs irréalistes, et c'est pas moi qui le dis, c'est un autre article d'Alternative Humanitaire, ce serait en fait mensonger. On promettrait des choses qu'on ne serait pas en mesure de tenir. Et certaines personnes considèrent en effet que moins 50%, c'est pas grave si on n'atteint pas. L'objectif, c'est de faire notre maximum. Et ben non. Enfin, les engagements, ça veut dire quelque chose. Alors, pour revenir sur la première partie de ta question, qui était donc, ça serait quoi un objectif réaliste ? Il a été dit en début de ce podcast qu'on était face à des besoins humanitaires croissants. Donc la question qui se pose, c'est dans quelle mesure les objectifs de décarbonation ne vont pas contraindre les organisations à répondre à ces nouveaux besoins ? Est-ce qu'on accepte que le volume d'activité des organisations augmente ? Et auquel cas, il va être très difficile pour elles, de plus en plus difficile, de réduire l'empreinte carbone. Si j'avais une empreinte carbone à 1000 tonnes d'équivalent CO2, à ma date de référence, ça veut dire que si je suis engagée en valeur absolue, je m'engage à la diviser par deux, à passer à 500. Mais si je dois par ailleurs répondre à des besoins croissants, je vais être en difficulté. Donc l'autre option, c'est de s'engager en valeur relative, c'est-à-dire de s'engager à réduire l'intensité carbone de ces activités.
Oh là, il y a un mot là qu'on ne connaît pas tous forcément. L'intensité carbone, qu'est-ce que c'est ?
Ça veut dire que pour une activité, je vais émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre. Mais si j'augmente, je multiplie par deux ce niveau d'activité, je la réplique, et bien forcément, je vais à nouveau réémettre des gaz à effet de serre. Et donc, ce qu'il faut, c'est en fait, pour une activité donnée, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, sur ce sujet, le groupe de travail carbone du réseau environnement humanitaire, le REH, a donc justement essayé d'éclairer la décision des organisations en exposant les pour et les contre de ce sujet valeur absolue, valeur relative. Puisque en effet, si on s'engage en valeur relative et que notre activité croît, alors on risque aussi par ailleurs d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est aussi un sujet à considérer. Et enfin, comment on pourrait faire pour être plus réaliste et aussi plus juste, du coup, puisque je ne veux pas dissocier les deux ? Et bien justement, dans ce même groupe de travail, on essaye de réfléchir à distinguer les périmètres. En particulier, de supprimer des objectifs de décarbonation, tout ce qui relève des services et des biens aux populations les plus vulnérables, pour la raison qu'il n'est pas juste de les faire rentrer dans nos objectifs de décarbonation. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'essayer au maximum de développer des bonnes pratiques environnementales, évidemment. Et pour tout ce qui va concerner, finalement, le fonctionnement des organisations, alors là, oui, il faut garder des objectifs ambitieux, puisque finalement, une ONG humanitaire internationale, et bah, c'est comme toute organisation internationale, y compris des entreprises privées, et donc, elles se doivent de réduire l'empreinte carbone de leur fonctionnement. Donc voilà, on va essayer... J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais on va essayer de distinguer les périmètres.
Merci beaucoup, Aline. Quand tu parlais de la question peut-être de la croissance des activités des ONG, ça, on y reviendra peut-être à la fin de ce podcast, parce que l'actualité montre plutôt que si l'activité effectivement croît, les ONG humanitaires, en tout cas, vont avoir de plus en plus de mal à mener leur mission.